Bonjour et bienvenue sur France Culture. Nous sommes en direct tous les samedis et tous les dimanches du mois de juillet de 12h40 à 13h50 pour décrypter les grands thèmes de l'actualité internationale et nationale. Aujourd'hui, nous nous interrogerons d'abord sur les conséquences de la réélection du président turc Recep Tayyip Erdogan au Moyen-Orient et plus particulièrement en Syrie. Puis nous tenterons de comprendre la position des pays d'Europe centrale et orientale vis-à-vis des migrants. Il l'a dit à plusieurs reprises et depuis sa réélection, il pourrait bien en avoir les moyens. Recep Tayyip Erdogan veut faire de la Turquie l'un des grands pays du monde. Et le terrain privilégié de cette ambition est le Moyen-Orient, plus particulièrement la Syrie, où la Turquie est engagée militairement et politiquement. Militairement, en intervenant contre les forces kurdes YPG, la déclinaison syrienne du PKK, l'ennemi principal d'Ankara, et aussi en soutenant une partie des rebelles syriens. Politiquement, en participant aux côtés de l'Iran et de la Russie, au groupe d'Astana qui tente, comme les Occidentaux, de trouver une solution à la crise syrienne. La nouvelle légitimité qui lui a été donnée par les urnes va-t-elle se traduire par des inflexions de sa politique moyenne-orientale ? Erdogan sera-t-il un nouvel Atatürk à l'international ? À la veille de leur sommet annuel, les membres de l'OTAN constatent une plus grande souplesse dans les positions de la Turquie, leur turbulent allié au sein de l'Alliance. Mais c'est l'évolution de la Syrie qui déterminera les possibles changements de la politique moyenne-orientale d'Ankara. Le rapprochement avec Moscou en 2016 était le symbole de la prise de distance de la Turquie avec les alliés occidentaux. Va-t-il survivre aux offensives du régime syrien épaulé par les forces russes contre les dernières poches rebelles ? Erdogan doit aussi régler ses différends avec Washington, qui se cristallise sur la question kurde. Des compromis sont-ils possibles, comme celui qui a eu lieu à Manbij, au nord de la Syrie, où les forces kurdes ont quitté les lieux après un accord américano-turc, où les forces turques vont-elles, au contraire, accentuer leur offensive contre les Kurdes ? Avec nous, pour en débattre, Michel Duclos, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes diplomate, vous avez entre autres postes été ambassadeur en Syrie de 2006 à 2009. Vous dirigez aujourd'hui l'Académie diplomatique internationale et vous êtes aussi conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Bruno Tertrais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de géopolitique. Marc Semo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes correspondant diplomatique du Monde et spécialiste de la Turquie. Avec la réélection d'Erdogan, peut-on s'attendre, Marc Semo, à des inflexions de la politique syrienne de la Turquie ? Première question très générale.
Oui, très générale. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que Recep Tayyip Erdogan est évidemment sur la scène interne plus fort que jamais. Il a instauré son régime hyper-présidentiel, il a été élu dès le premier tour. Les sondages au début étaient quand même assez mitigés, donc c'est une performance réussie.
Il continue d'ailleurs avec les purges.
Il continue avec les purges, mais c'est aussi parce que justement, il a promis que dans quelques jours, il lève l'état d'urgence, et les purges sont faites au nom de l'état d'urgence qui bloque toute forme de recours des fonctionnaires licenciés. Mais donc, il est plus fort que jamais sur la scène interne. Alors, il n'a pas totalement la majorité à la Chambre, il a 293 voix sur 600, mais le Parti d'Action Nationaliste, l'extrême droite nationaliste, son allié, a franchi la barre des 10%, donc il a une majorité. Donc, apparemment, aucun problème, mais en revanche, sur la scène internationale, sur le Moyen-Orient, le régime est probablement plus faible que jamais. C'est-à-dire, si l'on fait le bilan de la guerre en Syrie, et notamment des puissances régionales, le grand perdant, c'est incontestablement la Turquie. La Turquie avait misé sur l'opposition, à fond, au début. Ensuite, la Turquie, en août 2016, l'été juste après le putsch, en même temps qu'ils accusaient les États-Unis d'avoir trempé dans la tentative de putsch, la Russie basculait en partie s'alliant avec la Russie ou obtenant le feu vert de la Russie pour mener des interventions au nord de la Syrie. Elle en a fait deux. Elle a fait bouclier de l'Euphrate à l'été 2016 et ce printemps à sur Afrin, rameau d'olivier. Mais il est quand même le grand perdant parce que l'opposition est perdante. Et aujourd'hui, tout ce qui était sa stratégie, c'est-à-dire le processus d'Astana, nous sommes en commun avec la Russie et l'Iran, pour stabiliser la situation, pour créer des zones de désescalade. En réalité, le processus d'Astana n'a été qu'un moyen pour le régime de continuer ses offensives, de reconquérir tout le territoire. On l'a vu avec la Routa aux portes de Damas, on le voit maintenant avec Deraa. Et la vraie question, c'est Idlib, hein, la grande poche au nord-ouest de la Syrie, où il y a 3 millions de personnes, où les Turcs sont présents d'ailleurs pour protéger en partie ces gens qui ont fui de toute la Syrie. Raisonnablement, on peut imaginer que même si les Russes traînent les pieds, le régime veut reconquérir cette zone, ça sera extrêmement meurtrier, extrêmement... Ça risque de créer un nouvel afflux de réfugiés. Et là-dessus, la Turquie a déjà dit qu'elle quitterait le processus d'Astana. Donc ce que l'on est en train de voir maintenant, c'est qu'il y a...
Quitterait le processus d'Astana si d'aventure le régime syrien avançait avec les Russes. Hein.
Avec les Russes. Mais même tout seul, parce que sans les Russes, il n'a pas les moyens. Et donc ce qu'on est en train de voir, c'est une espèce de retour de la Turquie vers ses alliés traditionnels de l'OTAN. On le voit là, à l'occasion de ce sommet de l'OTAN. Il y avait déjà les signes avant-coureurs. La Turquie sait qu'elle a besoin de l'OTAN, sait ce qui est sa garantie de survie, et donc on ne peut pas exclure un retournement, d'autant que, aujourd'hui, on voit les tensions en train de monter entre les États-Unis et l'Iran, hein, l'Iran devenant la cible après la rupture de l'accord, enfin le retrait américain de l'accord sur le nucléaire, et évidemment, face à l'Iran, les États-Unis ont plus que jamais besoin de la Turquie, c'est quand même le pilier du flanc sud-est de l'OTAN, c'est en termes d'ombre d'hommes, je ne parle pas de ses capacités, la seconde plus grosse armée de l'OTAN, et il y a donc cette nouvelle donne, ce nouveau grand jeu qui est en train de s'ouvrir.
Michel Duclos, j'aimerais bien vous poser la même question, plus généralement au Moyen-Orient, est-ce que la réélection de Erdogan peut changer sa politique étrangère au Moyen-Orient et en Syrie ?
Bah, fondamentalement, cette élection n'est qu'une confirmation d'un pouvoir qu'il exerçait déjà de manière personnelle, autoritaire. Et peut-être pour faire écho à ce que disait Marc Semo, Erdogan, c'est l'homme fort. Et je crains que, comme tous les hommes forts, c'est un homme faible. Et ses marges de manœuvre sont plus limitées qu'on ne le perçoit très souvent. Son alliance avec le parti ultranationaliste limite considérablement sa marge de manœuvre vis-à-vis de la question kurde, par exemple. Et là, il va perdre la flexibilité qu'il avait jusqu'ici conservée. Sur la question syrienne, je ne crois pas qu'il ait jamais imaginé que le processus d'Astana était autre chose qu'un processus de répartition des zones d'influence. Et de ce point de vue-là, Astana continue. Sa préoccupation, c'est de garder une partie de la Syrie. Et je ne crois pas que, de ce point de vue-là non plus, l'équation soit fondamentalement changée. Il me semble que pour la Turquie, pour Erdogan, deux défis très précis se présentent en Syrie. D'abord, Idlib, comme vous l'avez indiqué. Et là, d'une certaine façon, c'est une carte pour les Occidentaux. C'est peut-être un terrain sur lequel on peut se rapprocher des Turcs. Et deuxièmement, c'est le PYD, comme vous l'avez dit, la branche syrienne du PKK, qui reste malgré tout la grande obsession en Turquie. Et là, il se trouve que les Américains et leurs alliés sont encore, pour l'instant, sur les rives de l'Euphrate. Pour l'instant, nous sommes encore les alliés des Kurdes syriens, même si toutes les déclarations qui ont été faites malheureusement à Washington sur un retrait imminent des Américains fait que ces gens commencent à regarder de plus en plus du côté de Damas, voire de la Russie. Mais il y a encore une petite chance, si nous étions, j'ai beaucoup admiré la présentation de Marc, mais elle suppose évidemment que tous les acteurs soient rationnels. Donc c'est un jeu stratégique très rationnel qu'il a décrit. Je crains que ce ne soit pas le cas. Dans un monde rationnel, il est évident que les Occidentaux ne devraient pas lâcher la carte kurde syrienne et devraient offrir aux Turcs une solution dans laquelle ces Kurdes syriens cesseraient d'être une menace pour la sécurité turque, et inversement, les Turcs s'entendraient avec les Occidentaux pour laisser aux Kurdes syriens une marge d'autonomie.
Je vais juste vous relancer sur les zones d'influence. Est-ce que, en fait, jusqu'où la Turquie veut-elle étendre sa zone d'influence dans la région? Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour elle puisse avoir des vues annexionnistes sur une partie de la Syrie, par exemple?
Pas de manière directe, mais à partir du moment où en Syrie, pour l'instant, les Iraniens ont une zone d'influence, les Israéliens définissent une zone d'intervention, les Russes ont des bases, ça paraît tout à fait logique que les Turcs raisonnent de la même manière, si vous voulez. Et là, le point qui est très frappant depuis quelques mois, c'est que pour le régime syrien, c'est évidemment l'anathème absolu que les Turcs se taillent une zone de néo-colonisation du côté d'Alep. Bien entendu, c'est totalement inacceptable. Je crois que les Iraniens, parce que c'est les plus proches du régime syrien, sont probablement sur cette ligne. En revanche, pour les Russes, ça se discute. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir une certaine stabilité. S'ils peuvent trouver un modus vivendi avec M. Erdogan, je pense que c'est un des sujets sur lesquels ils sont prêts à ne pas épouser complètement les vues du régime qu'ils protègent à Damas.
Bruno Tertrais, l'alliance avec la Russie, c'est une alliance tactique ou une alliance stratégique? Elle peut changer, évoluer?
C'est une alliance tactique qui dure. Je faisais partie des gens qui estimaient il y a 2 ans que tout ça était assez contingent et provisoire et que structurellement ces deux pays avaient davantage de raisons de se méfier l'un de l'autre plutôt que de continuer à se rapprocher. Mais force est de constater que les choses durent. Moi, ce qui me frappe, c'est que aujourd'hui, Recep Tayyip Erdogan, personnalité animale à sang chaud, réélu et plutôt bien réélu, est devenu quelqu'un de totalement imprévisible. D'ailleurs, ce type de personnage, une fois conforté par la légitimité plus ou moins démocratique, mais en tout cas la légitimité des urnes, peut soit se sentir à même, justement, parce qu'il est son pouvoir est conforté, peut se sentir à même de faire des compromis, être magnanime, etc. Soit au contraire, et malheureusement la personnalité d'Erdogan nous incite à ne pas totalement écarter ce scénario, à se lancer dans l'aventure. Prenons un peu de recul. Depuis 10 ans, voyons comment la politique turque a évolué. Vous savez, il y a 10 ans, c'était encore notre politique, c'est d'avoir aucun problème avec nos voisins. Zero problem with the neighbors, disait le ministre des Affaires étrangères puis Premier ministre de l'époque. Et puis il y a une période où ils ont eu des problèmes avec à peu près tous leurs voisins. Relations amicales avec la Turquie, puis quasi-état de guerre avec la Russie à un moment, puis alliance de fait, y compris sur le plan économique, parce que c'est quand même ça c'est important aussi, avec la Russie, contre le leadership syrien, qui est lui-même un allié de Moscou. Je crois que s'il y a des constantes, les seules constantes qu'on peut avoir dans la politique d'Erdogan, dans la politique turque en général, c'est sur la question kurde, effectivement, on l'a dit, et l'alliance avec un petit parti d'extrême droite ultranationaliste ne peut que conforter cette tendance structurelle de la politique turque en général. Mais je ne serais pas surpris que les tentations ou les pulsions néo-ottomanes d'Erdogan puissent se réveiller subitement, du jour au lendemain, en raison justement de cette situation beaucoup plus confortable dans laquelle il est aujourd'hui. Vous avez un mot sur la Turquie et l'OTAN, puisque vous l'avez évoqué, c'est quand même... Alors, je sais bien que les relations se détendent un tout petit peu entre la Turquie et le reste des membres de l'OTAN, mais enfin, il faut quand même se souvenir qu'il y a exactement 2 ans, il y avait un paquet d'officiers turcs en poste à l'OTAN qui demandaient asile politique dans les pays dans lesquels ils étaient stationnés. Donc, on demande l'asile politique chez un allié militaire. Ça, c'est quand même quasiment... Enfin, à ma connaissance, d'ailleurs, c'était du jamais vu. Depuis 1 ou 2 ans, on a vu d'ailleurs se poser la question tout à fait légitime, je fais partie des gens qui l'ont posé, savoir que fait la Turquie dans l'OTAN. Dans l'OTAN, on est censé avoir soit de préférence les mêmes intérêts et les mêmes valeurs, mais au moins soit les mêmes intérêts, soit les mêmes valeurs. Or, la Turquie aujourd'hui pose cette question. Avons-nous encore les mêmes intérêts et ou les mêmes valeurs que la Turquie? Bon, je ne pense pas que...
Vous pourriez parler aussi des S-400, hein, qui sont le gros problème, oui, de l'OTAN, alors, hein, qui sont S-400, un système...
voilà, c'est un système de défense antiaérienne particulièrement moderne que les Turcs ont acheté à la Russie. Or, dans ces systèmes militaires, aujourd'hui, tout est intégré. Si vous voulez, donc, on ne peut pas totalement séparer un système russe du reste des systèmes otano-américains, otano-occidentaux, qui sont installés en Turquie. Donc, jusqu'à quel point ce jeu de balancier entre être membre de l'OTAN et être très proche, voire allié de fait, de la Russie peut durer, à mon avis, même si c'est un peu plus durable que je ne le pensais il y a 2 ans, à mon avis, ça n'est pas quelque chose de structurellement stable.
Les gens de l'OTAN racontent volontiers que, en fait, c'est très rigolo, que tous les militaires turcs qui sont à l'OTAN n'ont pas de moustache, et que dès qu'ils arrivent en Turquie, les militaires ont des moustaches. Et c'est à ça qu'on les reconnaît, la différence. Marc Sémou, vous vouliez ajouter quelque chose, non pas sur la moustache, mais...
Oui, non, mais c'est sur une situation qui est quand même très paradoxale, parce qu'il y a aussi la question des Kurdes. C'est-à-dire, c'était quand même une situation assez inédite de voir le principal pays de l'OTAN, à savoir les États-Unis, et d'autres pays clés de l'OTAN, dont la France, soutenir, y compris militairement, en armant une force que Ankara, à savoir le PYD et le YPG, sa milice armée, considère comme son ennemi principal. Alors, ensuite, il y a une grande légitimité au combat kurde et kurdes syriens pour leur autonomie et pour leurs droits. Mais, malgré tout, c'est une situation pour le moins paradoxale et, de ce point de vue-là, Ankara avait quelques arguments à dire « Attendez, c'est quoi cette alliance où notre principal allié aide militairement et forme militairement des combattants qui, maintenant, ou dans un an, vont se tourner contre nous. » Donc, le problème était effectivement très complexe. Aujourd'hui, on voit, Daesh est plus ou moins écrasé, au moins au niveau du territoire qu'il contrôle. Donc, on voit déjà se redistribuer les choses. Le PYD retourne vers Damas. Il ne faut pas oublier qu'au début de la guerre, le PYD...
Donc, les Kurdes, le Parti Kurde.
Le Parti des Kurdes était allié de Damas. C'est Damas qui s'est retiré d'ailleurs des zones kurdes sans combat, en leur laissant la gestion des zones kurdes parce qu'ils avaient besoin de leur armée ailleurs. Le PYD a aussi d'excellentes relations avec la Russie. C'était même une de leurs premières représentations à l'étranger qui a été ouverte. Donc, on est un peu dans une situation où, voilà, on revient un peu à la case départ. Alors, ce qui est très compliqué...
Parce qu'ils en sont où, les Kurdes, là?
Ils tiennent un bout de territoire, oui. Important. Les Turcs ont obtenu qu'ils n'aillent pas à l'ouest de l'Euphrate. Et c'est là-dessus qu'ils ont installé leur zone tampon.
Ils gagnent, ils perdent?
Ils ont gagné militairement. Ils ont d'abord gagné militairement en étant quand même les principaux appuis sur le terrain des Occidentaux. Ils ont aussi gagné politiquement, obtenant une forme de reconnaissance, y compris par des visites à Paris, etc. Mais à plus long terme, c'est compliqué parce que s'il faut choisir entre d'un côté la Turquie et de l'autre les Kurdes, militairement parlant, compte tenu de tous les enjeux régionaux et de l'histoire, on peut dire que...
On lâchera une nouvelle fois les Kurdes.
Voilà. Ensuite, la véritable clé de tout ça est à Damas. C'est-à-dire, les Russes, comme l'avait dit très clairement Vladimir Poutine quand il avait été il y a à peu près un an sur la base de Hamelin, qui est la grande base russe en Syrie, les Russes veulent un processus de paix pour sortir de cette espèce de conflit. Jusqu'ici, les interventions russes dans tout l'étranger proche, comme l'appellent les Russes, c'était soldé par des conflits gelés. Le problème, c'est qu'on ne peut pas geler le conflit syrien. Donc il faut, d'une manière ou d'une autre, trouver une issue diplomatique. À partir de là, les Russes étaient plutôt pour calmer le régime, d'où les zones de désescalade, les compromis. La zone de Dera était un modèle du genre. On faisait une zone de désescalade avec l'accord des Jordaniens, même implicite des Israéliens, etc., etc. On voit que le régime veut reconquérir tout son territoire et qu'il force la main des Russes. Donc la question maintenant, c'est de savoir, les Iraniens, comme le disait très bien Michel Duclos, vont suivre. Que vont faire les Russes? C'est difficile pour les Russes de ne pas continuer à soutenir le régime. Et si le régime est réellement décidé à reconquérir l'intégralité de son territoire, comme il le dit, je pense que ça va devenir très compliqué pour les Russes de garder cette espèce d'alliance vassale avec les Turcs qui, en même temps, ont leurs propres intérêts.
Michel Duclos, la Turquie peut-elle se rapprocher de l'Iran?
Oui, mais marginalement.
Donc l'Iran qui est le principal allié du régime syrien avec la Russie.
Oui, mais la Turquie et l'Iran ont gardé des relations... de travail, disons, des relations convenables. Le dialogue n'a jamais été complètement interrompu. C'est sûr que dans une perspective historique, il y a nécessairement des limites à ce dialogue.
Les Turcs et les Iraniens vous disent souvent que la frontière turco-iranienne a toujours été extrêmement sable. C'est l'une des frontières les plus anciennes du monde et qu'elle est traditionnellement un espace de passage et de commerce et a rarement été un espace conflictuel. Le problème, c'est pas tellement le risque de brouille très grave entre ces deux pays. Le problème, c'est plutôt celui de la compétition stratégique entre deux États qui retrouvent des rêves d'empire. C'est plutôt ça la question.
Juste un point là-dessus, la question du nucléaire. C'est-à-dire, si l'Iran repart d'une manière ou d'une autre pour son programme nucléaire après l'échec du JCPOA, que vont faire les Turcs ? Il y avait le pacte, je crois que c'était le pacte d'Islamabad, avec le Pakistan dans les années 50, la Turquie et l'Iran. C'était le pacte de Bagdad. Bon, sur ces pays, qui étaient les trois puissances régionales à l'époque, aujourd'hui, une est déjà une puissance nucléaire, le Pakistan. L'Iran est en train de vouloir l'être. Bon, la Turquie, quelque part, pays qui a comme un sens assez poussé de sa souveraineté nationale, qui jusqu'ici est sous le parapluie de l'OTAN et des Américains, ne peut pas ne pas se poser la question. Et c'est une question qui risque de monter en puissance. Alors, avec qui ils vont faire le nucléaire ? Alors, pour le moment, ce sont les Russes qui construisent une centrale civile à Sinop, au nord. Mais bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Et cette question du nucléaire, qui est un peu le non-dit, mais quand vous discutez les yeux dans les yeux avec les officiels turcs, alors là, toutes tendances confondues, la question du nucléaire, elle se pose.
Bruno Tertrais. Oui, je suis là-dessus un tout petit peu moins dramatisant que Marc Sémot. Je pense qu'il y a beaucoup de...
Marc Sémot est toujours le pessimiste dans les débats.
Je suis pas toujours l'optimiste sur ces sujets. Mais deux points là-dessus. La Turquie a toujours été le pays qui, dans l'OTAN, a toujours freiné et même interdit, puisque dans l'OTAN, on prend les décisions par consensus, interdit, dans les faits, que l'on considère l'Iran comme un adversaire potentiel, ou même que l'on parle de l'Iran comme un problème potentiel pour l'Alliance Atlantique. Là, il y a toujours eu un veto turc sur ce sujet. Mais d'un autre côté, mais en même temps, parce qu'ils font du en même temps sur l'Iran, en même temps, ils ont parfaitement accepté et même souhaité que l'une des installations de détection radar des missiles iraniens soit installée sur leur territoire, parce qu'il se trouve que pour des raisons géographiques, c'est ce qu'il y a de mieux. Si on veut repérer d'éventuels départs de missiles balistiques iraniens, il faut que ce soit en Turquie qu'on les repère. Donc voilà, ils sont un peu dans ce jeu de balancier qui ne marche pas trop mal historiquement, en tout cas depuis 10-20 ans, ça marche plutôt pas mal.
Michel Duclos.
Oui, je dirais, là, c'est par des formations professionnelles de diplomates que d'une part, presque tout reste ouvert, comme je crois la conversation l'a montré. Et d'autre part, ces acteurs, ces décideurs ont une vision très court-termiste des choses. Là, ce qui se passe pour l'instant, c'est que les Américains mettent une grande pression sur l'Iran. Il y a effectivement une très forte chance que les Iraniens reprennent progressivement des activités liées au nucléaire, d'abord compatibles avec l'accord dit JCPOA, et puis ensuite de moins en moins compatibles. Et donc ça va poser un dilemme à chacun des alliés des États-Unis, y compris la Turquie, y compris la Russie. Mon sentiment, c'est que les Russes vont rester neutres, et même que Poutine va vendre sa neutralité le plus cher possible à Trump. C'est un des enjeux de la prochaine rencontre entre les deux hommes. La Russie, jusqu'ici, la Russie de Poutine, a manifesté une capacité extraordinaire à rester en bon terme
avec
des acteurs dont les intérêts sont opposés. Et personnellement, je vois quand même assez bien la Russie trouvant des compromis, des modus vivendi avec la Turquie, tout en restant le parrain du régime. Après tout, vous avez cité Manbij. Avant, il y avait l'opération turque en Syrie que vous avez mentionnée et qui avait été autorisée par les Russes, qui avait fait l'objet d'un feu vert avec les Russes. Donc les Russes ont une capacité d'arbitrage sur le terrain qui est considérable dans l'ensemble de la région et dont il me semble que tous les acteurs locaux tiennent le plus grand compte, y compris par exemple les Saoudiens qui, très hostiles aux Iraniens, sont quand même et très hostiles à la politique russe en Syrie, trouvent quand même des accords avec la Russie sur les questions pétrolières. Notre vraie difficulté, nous occidentaux, nous alliés des États-Unis, c'est d'avoir le même type d'attitude multiple, avec une capacité d'alliance et de contre-alliance avec les acteurs régionaux. Et jusqu'ici, c'est clair qu'on n'est pas à la hauteur de M. Poutine.
Parce que, Michel Duclos, y a plusieurs guerres, en fait, en Syrie. Il y a la guerre du régime contre la rébellion, il y a la guerre des Occidentaux contre Daesh, il y a la guerre de l'Iran chiite contre l'Arabie sunnite, il y a la guerre aussi des États-Unis contre la Russie. On voit bien, très bien, qui est le perdant de tout ça, c'est le peuple syrien. Mais si vous, je sais que la question est compliquée, mais est difficile, mais si vous deviez vous projeter dans 3 ou 4 ans de toutes ces guerres, vous voyez un gagnant, vous voyez une zone d'influence, un partage de zones d'influence assez précis ou pas ? Qu'est-ce qui peut en sortir ? Alors, c'est un peu de la politique fiction, mais
Je pense qu'effectivement, il y a un perdant, c'est le peuple syrien. Un deuxième perdant, c'est l'Occident. Très simplement. Et y compris l'OTAN, qui, dans cette affaire, est restée totalement absente. Je ne serais pas étonné pour ma part qu'une forme d'équilibre de la dissuasion s'établisse entre Russes, Américains, Israéliens et Iraniens. Et je crois que pour les Turcs, l'enjeu, ce sera de se situer dans cette équation. Maintenant, c'est un scénario. Je reconnais par ailleurs qu'il y en a d'autres. Il y a des scénarios de conflits, et, comme selon l'expression que j'avais utilisée jadis, de guerre sans fin.
Renaud Tertrais, je crois que vous vouliez ajouter quelque chose.
Simplement pour rappeler qu'effectivement, historiquement, les guerres les plus longues deviennent des guerres interminables. Je m'explique. On constate que les guerres civiles, qu'on appelle civiles, enfin, qui sont des conflits internes, surtout lorsqu'elles sont internationalisées, comme l'a été très tôt le conflit syrien, ont leur dynamique propre de guerre sans fin, justement. Et malheureusement, le conflit syrien en prend le chemin, et je crois qu'on a davantage de chances d'entrer dans une logique dans cette logique de guerre sans fin, même si ça ne sera pas, je l'espère, en tout cas avec l'intensité qu'on a connue, surtout pour les populations syriennes, qu'on a connue il y a 2 ou 3 ans. Mais je ne vois pas du tout. C'est une manière longue de dire, je ne vois pas du tout une stabilisation et encore moins un partage. Vous savez, quand on parle de partage de zones d'influence, faut pas donner sentiment que c'est une sorte de. C'est ni la fédéralisation ni le néocolonialisme. On ne va pas se réunir autour d'une table pour dire voilà, ça c'est à toi, du genre ce qu'on faisait les accords Sykes-Picot.
Ah non, ça se passe militairement sur le terrain.
Voilà, il peut y avoir dans les faits un pays où la souveraineté du pouvoir central, le pouvoir de Damas, ne s'étendra pas à l'ensemble du territoire de la Syrie tel qu'il existe aujourd'hui juridiquement, et avec des zones théoriquement sous contrôle de Damas, mais en fait qui seront sous le contrôle de milices ou de forces de partis ou de forces qui auront chacun des parrains étrangers, avec, comme toujours au Moyen-Orient, des renversements d'alliances et de parrainages.
Et dans cette future Syrie... Vous allez répondre, mais d'abord je vous pose une question, vous ferez les deux en même temps. Dans cette future Syrie, quel rôle voyez-vous à la Turquie ?
Alors, à propos de ça, effectivement, ce n'est pas Yalta. Hein, et la boutade qui court parmi les spécialistes de la région à propos de ce conflit syrien, mais plus généralement de cette guerre entre puissances chiites et puissances sunnites, c'est une guerre de 30 ans. Le problème, c'est de savoir quand elle a commencé. Voilà. Certains la font commencer en 1979, avec à la fois la révolution iranienne et les attaques extrémistes sur les lieux saints. Donc,
si c'était une guerre de 30 ans qui a commencé en 79, elle serait déjà finie.
Voilà. Mais voilà. Donc là, pour le moment, on est parti.
Une guerre de 100 ans qui
voilà.
Bruno Tertrais, très fort en calcul.
Absolument, plus rapide que moi. Mais alors, le rôle de la Turquie, effectivement, le rôle de la Turquie est pour le moment assez difficile parce que pour le moment, elle ne tient que, voilà, deux petites zones tampons qu'elle va essayer de garder par tous les moyens puisque c'est pour sécuriser sa frontière. Mais elle est, de ce point de vue-là, la grande perdante parce que même si Idlib reste un bastion de l'opposition, même si finalement le régime ne reconquiert pas Idlib, il y a une souveraineté seulement formelle de Damas sur Idlib, la Turquie aura perdu. Et c'est d'ailleurs une des raisons de la victoire en interne de Recep Tayyip Erdogan. Paradoxalement, ce n'est pas tant ces opérations militaires victorieuses, même si ils se sont vantés, nous avons reconquis l'enclave kurde de Afrin en un temps record, etc. C'est plutôt cette peur de toute l'opinion turque, d'une partie majoritaire de l'opinion turque, par rapport à ces risques de métastase, de démantèlement. Hein, il faut voir qu'en Turquie, il y a quelque chose qui est très très fort, qu'on appelle le complexe de Sèvres. Sèvres, c'était le traité après la Première Guerre mondiale, qui démantelait complètement l'Empire ottoman et la Turquie. Hein. La Turquie, c'était un espèce de bantoustan ridicule autour d'Ankara, contre lequel s'est soulevé Mustafa Kemal Atatürk. Hein, c'était la guerre d'indépendance. Et c'est encore la chose qui structure l'imaginaire turc, c'est-à-dire le complexe de Sèvres, l'idée que les Occidentaux sont à la fois des alliés, mais ceux qui ont voulu démanteler l'Empire, donc c'est quelque chose qui reste très très fort.
Michel Duclos, on l'a tout un petit peu évoqué tout à l'heure, mais je voudrais qu'on revienne un peu plus longuement sur les relations entre la Turquie et les États-Unis en Syrie, parce que les États-Unis ont vraiment besoin des bases militaires turques, donc ils ne peuvent pas se passer, ils ont aussi besoin d'Ankara, pour faire barrage à l'Iran, qui est leur principal ennemi dans la région.
Bon, comme ça a déjà été dit, les Américains et leurs alliés ont fait un choix qui apparaîtra rétrospectivement comme presque incroyable, qui a été de s'allier en Syrie à une branche du PKK, considérée par nos alliés turcs comme des terroristes et des ennemis de la République. Si ça a été fait, c'est pas évidemment par caprice. C'est parce que nos dirigeants, et notamment nos établissements militaires et de sécurité, ont considéré que c'était la meilleure carte dont nous disposions pour combattre Daesh. Est-ce qu'ils avaient raison? Est-ce qu'ils avaient tort? Est-ce qu'il n'aurait pas été préférable de prendre son temps et de former des milices arabes sunnites compatibles avec les Turcs? Ça, c'est difficile d'en décider quand vous n'êtes pas vous-même aux commandes. C'est difficile de porter un jugement. Mais c'est vrai que c'est un peu le péché originel qui a rendu extrêmement difficile de discuter avec les Turcs au cours de ces dernières années. Je ne crois pas personnellement qu'il faille, comme on dit, lâcher les Kurdes, abandonner les Kurdes, parce que ce ne serait pas bon pour notre crédibilité. Une fois qu'on a décidé de faire alliance avec un groupe, il faut s'y tenir. Mais en revanche, il faut utiliser cette alliance pour traduire une manœuvre politique, en déduire une manœuvre politique. Et c'est là où, à mon avis, je me répète, mais il y a quand même une possibilité de trouver des compromis acceptables pour la Turquie.
Dernière question très très brève.
Mais ça suppose qu'on ne soit pas dans la logique de l'impulsion trumpienne de ramener les troupes avant les midterm elections, évidemment.
Dernière question très brève, Marc Semo. L'acteur qu'on n'a pas encore évoqué, c'est l'Union européenne. Syrie, Turquie, Union européenne, c'est la Turquie qui ferme le robinet des migrants.
Absolument.
Donc on a absolument besoin de d'améliorer nos relations avec la Turquie.
Oui, alors sur ce plan des migrants, elle fonctionne. L'Union européenne verse de l'argent. Alors même si les Turcs râlent sans arrêt, c'est pas tous les fonds promis, etc. La Turquie, effectivement, héberge plus de 3 millions de réfugiés syriens, hein, qui, pour la plupart, ont fui, non pas l'État islamique, mais ont fui le régime. Donc c'est fondamental pour l'Union européenne. Mais le problème, c'est que ça ne résout pas. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est que la paix inclusive dont parle volontiers la diplomatie française, hein, le fait que la France conditionne, comme le reste de l'Union européenne, les possibles aides, etc., à une paix inclusive, à des réformes du régime et tout, pour le moment, ça reste complètement sur le papier. On ne voit absolument rien qui bouge actuellement sur le plan diplomatique.
Ainsi s'achève ce premier débat consacré aux conséquences géopolitiques de la réélection d'Erdogan en Turquie. On se retrouve tout de suite après une pause musicale.
Başına buyruk kararlardan, fermanlardan illallah. Bir öyle bir böyle kelamlardan, yasaklardan illallah. Başına buyruk kararlardan, fermanlardan illallah. Aman aman bıktık valla, aman aman şiştik valla. Bu ne kibir? Gel yerler yaş, aman aman bıktık valla, aman aman şiştik valla. Bu ne kibir, bu ne öfke. Gel yavaş gel yerler yaş, gel yavaş gel yerler yaş.
Le magazine du week-end, Isabelle Lasserre.
Vous venez d'écouter Sounds of Pots and Pans de Kardesh Türkeler, un groupe de percussionnistes anti-Erdogan qui joue souvent dans la rue avec des casseroles, des marmites et autres instruments de cuisine. Il est maintenant l'heure d'ouvrir notre second débat du magazine d'été. Leur fronde s'est renforcée. Mais elle ne date pas d'aujourd'hui. La Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la République tchèque, réunies depuis 1991 dans le groupe de Visegrad, campent depuis plusieurs années sur une ligne dure vis-à-vis des migrants et refusent les quotas de demandeurs d'asile que veut leur imposer l'Union européenne. La Hongrie ne deviendra pas un pays de migrants, a prévenu Viktor Orban, le président hongrois. Entre les pays de l'Est et l'Europe de l'Ouest, l'incompréhension paraît total. Les premiers considèrent que les seconds sont suicidaires. Les seconds regardent les premiers comme des peuples attardés qui n'ont pas compris l'essence de la démocratie. Restés à l'écart du monde pendant la dictature communiste, dans des sociétés ethniquement homogènes, les pays d'Europe orientale, qui n'ont pas de passé colonial, rejettent le modèle multiculturaliste que veut leur imposer l'Europe de l'Ouest. Ils considèrent que ce modèle met en péril leur culture, la seule chose qui leur a permis de survivre pendant l'oppression communiste. Mais leur refus d'accueillir des migrants a d'autres sources. Depuis la chute du mur, ces pays sont devenus des terres d'émigration. À elle seule, la Bulgarie a déjà perdu 20% de ses habitants en 20 ans. Certains de ces pays, tout simplement, ont peur de disparaître. À ces raisons historiques et démographiques s'ajoute une frustration. L'absence d'intérêt, voire le déni manifesté par les pays d'Europe occidentale vis-à-vis de leur spécificité culturelle. Longtemps minoritaires dans l'Union européenne, leurs idées se propagent aujourd'hui à la vitesse d'un cheval au galop sur tout le continent. En Autriche et en Italie, où de nouveaux pouvoirs ont adopté leur ligne dure anti-migrants, mais aussi en Allemagne, où ils ont des alliés au sein du gouvernement, et dans la plupart des pays occidentaux où les mouvements opposés à l'immigration sont en expansion. Les récentes enquêtes d'opinion révèlent qu'une majorité des citoyens européens, y compris en France, réclament une limitation de l'immigration. Les pays de l'Est sont-ils en train d'imposer leur modèle de société à l'Europe? C'est ce dont nous allons débattre avec nos invités. Jacques Rupnik, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de nous rejoindre. Vous êtes directeur de recherche au CERI à Sciences Po, spécialiste des pays d'Europe centrale et orientale. Votre dernier livre, Géopolitique de la démocratisation, l'Europe et ses voisinages, est paru en 2014 aux éditions de Sciences Po. Marc Semo, correspondant diplomatique du Monde, vous êtes resté avec nous pour ce second débat.
Rebonjour.
Et vous aussi, Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Votre dernier livre, La Revanche de l'Histoire, comment le passé change le monde, a été publié en mai 2017 aux éditions Odile Jacob. Vous venez aussi de publier une note très intéressante sur le défi démographique, ses mythes et ses réalités pour l'Institut Montaigne et pour la Fondation pour la Recherche Stratégique. Première question. Comment peut-on expliquer l'hostilité des pays de l'Est vis-à-vis des migrants, Jacques Rupnik?
Il y a plusieurs raisons. Il y avait, disons, une question de méthode et une question de fond. La question de méthode, c'est qu'ils ont jugé la décision de la Commission européenne de, en quelque sorte, de répartir les migrants par quota. Ils l'ont jugé unilatéral, sans leur aval, et c'était quelque chose donc qui leur a été imposé.
Donc ça, c'est l'arrogance.
Là, c'est la méthode. Et alors, il y a la raison de fond. Par où commencer? Il y a des facteurs historiques qui concernent la constitution de ces nations sans État, qui, pendant longtemps, se sont constitués comme nations culturelles qui sont définies par la culture, la langue, parfois la filiation religieuse, et un contraste donc avec la construction des États à la française, où c'est l'État qui construit la nation. Là, c'est la nation culturelle, disons, qui arrive à l'âge politique, 1848 et surtout 1918, où ils constituent leurs États indépendants en Europe du centre-est. Il y a chez eux donc la tentation de prolonger ou de projeter ce modèle de construction de la nation culturelle à l'échelle européenne. On défend pas seulement la nation et l'identité de la nation face à ce qui est perçu comme une invasion, avec ou sans guillemets. Eux n'utilisent plus les guillemets, d'ailleurs. moi, je les utilise parce que, bien sûr, que le terme est éminemment contestable. Et ils projettent ça à l'échelle européenne. Nous sommes le rempart, n'est-ce pas, d'une culture, d'une civilisation européenne qui doit se protéger face à ce qu'il faut bien considérer comme une menace. Et ils s'opposent en cela.
Donc ils ne sont pas du tout anti-européens, hein, comme on le...
Non, tout ça se fait au nom... Alors c'est là que sont les ambiguïtés. Tout ça est fait au nom d'un discours sur l'Europe. Parce que si c'était simplement pour dire il y a des démocrates et derrière, il y a des autoritaires. Non, parce que leur débat sur la démocratie, et ce qu'on a appelé la démocratie non libérale ou illibérale, pour employer le terme anglais, est en fait un débat au sein de la démocratie, sur la représentation, sur les contre-pouvoirs, etc. Donc, il y a un débat au sein de la démocratie et il y a un débat au sein de l'Europe sur comment définir l'Europe. Et donc, il y a ce discours renforcé, je pense, depuis 2015, avec la vague des migrants, et c'est Madame Merkel qui, en particulier, a mis l'accent là-dessus. Voilà, l'Europe, c'est des valeurs, et entre autres, pas seulement des valeurs de l'État de droit, mais c'est des valeurs qui concernent les droits de l'homme, en gros. C'est des valeurs universelles que nous défendons, et c'est au nom de ces valeurs que nous devons accueillir les populations en danger, etc. C'est un devoir. Et bien entendu, en Allemagne, cela a une résonance historique particulière, hein, voire des trains de migrants accueillis en Allemagne, dans le pays d'où des trains partaient vers l'extermination à l'Est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc la symbolique, bien sûr, était très forte, mais en Europe centrale, ils se sont braqués là-dessus, comme j'ai dit, sur la méthode, mais aussi sur le fond. Vous nous donnez comme définition de l'Europe la défense de valeurs universelles. Elles peuvent être utilisées, elles sont très élastiques. Qui les définit? Non, nous avons une autre définition de l'Europe qui est la défense d'une culture, d'une civilisation, d'un mode de vie que nous sentons menacé. Et ça, c'est peut-être le dernier point, le clivage peut-être le plus dur, c'est justement sur ces questions de société. Car à travers le système des quotas que l'Union européenne leur proposait, donc de répartir les migrants, ils voyaient un moyen de leur imposer un modèle de société, qui est un modèle de société multiculturelle qui s'est développé en Europe occidentale depuis un demi-siècle, avec l'arrivée progressive de populations d'un autre continent, ou d'anciennes colonies, pour aller vite, pour la France, pour la Belgique, la Hollande, Grande-Bretagne, etc. Chacun avait ses propres filières d'immigration. Eux n'ont pas connu ça. Et eux, au contraire, se sont considérés comme des peuples colonisés. Nous sommes sortis du dernier empire colonial, l'Union soviétique. C'était le dernier empire colonial. Et nous en sommes sortis en 89. Donc nous n'avons pas de culpabilité postcoloniale. Nous n'avons colonisé personne. Nous défendons ce qui nous a permis de subsister dans l'histoire. Donc vous voyez, il y a et peut-être dernier mot là-dessus, ils ont une perception. Alors je ne dis pas qu'elle est juste, mais les perceptions, ça compte sur le sujet qui nous concerne.
Et la psychologie aussi.
La psychologie, la perception. Ils ont une perception que ce modèle de société, non seulement que eux n'en veulent pas, mais que c'est un modèle qui a échoué en Occident. Vous nous imposez quelque chose qui ne marche pas chez vous. Regardez ce qui se passe. Et alors là, ils vous donnent la longue liste dont nous n'avons pas besoin. Nous connaissons bien nos problèmes. Et donc là, voilà, il y a ce triple clivage, en gros, historique, politique et sociétal.
Marc Sémot, vous les comprenez, les pays d'Europe centrale et orientale ?
Il ne s'agit pas de les comprendre, mais d'expliquer. Alors, Jacques Rupnik a très bien déjà donné le cadre. Il y a juste deux choses en plus. Le politologue bulgare Ivan Krastev, que connaît bien Isabelle Lasserre, qui a fait une très belle interview avec lui dans le Figaro, disait « Le choc migratoire de 2015, ça a été le 11 septembre de l'Europe ». Au sens de la vulnérabilité. Et cette chose, l'Europe s'est découverte vulnérable, et ça a été particulièrement fort dans ces pays de l'Europe centrale et orientale. Et, outre toutes les raisons très bien expliquées par Jacques Rupnik, il y en a une autre qui est, que Isabelle d'ailleurs évoquait dans son lancement, qui est la peur de la disparition.
Ah mais ça, je pense que je voudrais que ce soit Bruno Tertrais qui en parle.
Qui est quelque chose quand même de très très fort. C'est-à-dire c'est des pays récents qui sont nés de l'effondrement des empires en 1918, qui ont eu du mal à trouver leur marque. Toute l'entre-deux-guerres a été marquée par ces questions des minorités de ces États, au point que Churchill a eu cette phrase terrible à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En 1918, on a essayé de faire coïncider les peuples avec les frontières, de faire coïncider les frontières avec les peuples. Ce coup-ci, nous allons faire coïncider les peuples avec les frontières. Et ça a été ces déplacements massifs de population de l'après-guerre, 15 millions d'Allemands et 10 millions d'autres, etc. Donc, il faut voir cette espèce de vision avec, en plus, le déclin démographique, avec, en plus, les migrations. Et donc, voilà, ça se greffe sur une conception très différente de la nation, une conception, effectivement, comme disait très bien Jacques Rupnik, ethnique, linguistique, qui a précédé l'État. Il y a une phrase extrêmement crue, je finirai là-dessus, du premier ministre actuel tchèque, Andrej Babiš, qui disait « Nous voulons des migrants ». Mais ukrainien. C'est-à-dire, là, ce qui fait peur dans ces migrants, c'est aussi, pour eux, le fait qu'ils viennent d'un autre monde, qu'ils viennent d'Afrique, qu'ils viennent du... Nous, ils disent, on n'a pas été des puissances coloniales, donc pourquoi on aurait à gérer des sociétés multiculturelles? En revanche, les Ukrainiens, même s'il y a eu des différends dans le passé, ils sont de chez nous, on les connaît, voilà. Donc il y a cette vision totalement différente de la nation, cette vision totalement différente de l'Europe, y compris au niveau de la Constitution européenne. Les pays de l'Est étaient tous pour inscrire, par exemple, le christianisme, les racines chrétiennes dans le préambule de la Constitution. Donc voilà, c'est très différent de ce point de vue-là.
Bruno Tertrais, vous pouvez nous parler un petit peu de cette étude, justement de toute la partie de l'Est européenne qui se dépeuple. Pourquoi les gens partent-ils de ces pays?
Alors attendez, je crois qu'il faut revenir d'abord sur, pour résumer un tout petit peu ce que j'ai entendu, avec lequel je suis tout à fait d'accord. Pour moi, ce qui est frappant dans ces pays, que nous en France avons toujours tendance, et Jacques Rupnik le sait bien, à ne pas assez écouter, à moins écouter que nos voisins immédiats, ce sont des pays qui nous disent, pour simplifier, pour résumer ce qui a été dit, au moment où nous retrouvons notre identité et notre histoire, d'une part, vous voulez nous imposer, la Commission européenne veut nous imposer des choses dont nous ne voulons pas, qui ne nous appartiennent pas et que nous n'avons pas choisi l'Union européenne pour ça, et par ailleurs, et c'est là que je viens à la situation démographique, nous sommes dans une situation de ce que moi j'appelle, c'est mon expression, la double peine démographique. C'est-à-dire que d'une part, ce sont des pays qui s'effondrent littéralement, je vais le détailler à l'instant, et d'autre part, au même moment, ils reçoivent justement ces flux, notamment en provenance du Moyen-Orient et d'Afrique, dans lesquels ils ne se reconnaissent pas du tout. Effectivement, il ne faut pas dire que ce sont des pays qui refusent les migrants, c'est même le contraire. On ne le sait pas assez, mais en 2015, je crois, 2015-2016, la Pologne délivrait davantage de titres de séjour que l'Allemagne, par exemple. Ce n'est pas des pays qui refusent l'immigration.
Non, mais pas aux mêmes migrants.
Mais pas aux mêmes migrants, effectivement, comme l'a dit Rupnik tout à l'heure. Moi, ce qui m'a frappé, et c'est vrai que j'en ai fait du coup un développement important de cette monographie, ce travail sur la démographie pour l'Institut Montaigne, c'est que quand on regarde les tableaux de l'ONU, les tableaux de la division de la population de l'ONU, les projections, le scénario médian de la division de la population de l'ONU, on voit, moi il y a quelque chose qui m'a sauté à la figure, c'est que sur les 11 pays qui sont appelés dans ce scénario médian à perdre plus de 15% de leur population, dans la projection de l'ONU, d'ici 2050, c'est énorme, hein, plus de 15%, c'est considérable, c'est gigantesque. Ce 11 dans le monde, il y en a 10 qui sont en Europe centrale et orientale. 10.
Et la Bulgarie, c'est 23%. Alors,
la Bulgarie, c'est phénoménal, effectivement. C'est déjà un pays qui a perdu quasiment 20% de sa population depuis l'ouverture du rideau de fer et qui pourrait perdre, c'est le record du monde, effectivement, plus de 20%. C'est phénoménal.
Qu'est-ce qui se passe en Bulgarie?
Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces pays? C'est la conjonction de trois facteurs. La démographie, c'est souvent des petits facteurs différents. Il se passe en Bulgarie ce qui se passe aussi ailleurs. La hausse de la mortalité. On meurt plus jeune, donc forcément, ça fait moins de personnes à la fin de l'année, la baisse de la natalité, on fait moins d'enfants, et puis on émigre à l'étranger. Et d'ailleurs, ce phénomène, on a beaucoup parlé des migrants provenant d'Irak, de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan récemment, mais il faut quand même voir que la dernière crise des migrants, d'une certaine manière, c'est pas une crise de la même valeur, mais ça a déjà produit des effets politiques. On ne se souvient pas toujours aujourd'hui, parce que l'actualité va très vite, qu'en 2005, il y avait la fameuse figure du plombier polonais. C'est un autre type de migration.
Parce qu'elle était aussi dans le Brexit.
J'y viens à l'instant. Le Polonais a été pourtant le Polonais européen, généralement chrétien. C'est souvent ce que certains pays appellent le bon migrant.
Mais très chrétien.
Et généralement plus chrétien que le français d'ailleurs, en moyenne en tout cas. Mais ça a déjà produit des effets politiques. Effets politiques en 2005 sur le référendum. Et peut-être surtout, on n'en a pas beaucoup parlé au moment de 2016, mais vous l'avez relevé à juste titre, la figure du travailleur polonais en Grande-Bretagne. Il faut se souvenir que Londres a très largement ouvert son territoire à la migration de travail polonaise dans les 15 dernières années. Et ben, ça a eu aussi des effets politiques. Donc, au-delà de la crise des migrants, ce problème identitaire de l'Europe, identité, histoire, frontière, qui se pose différemment, Jean-Claude le rappelait, à l'Est et à l'Ouest, il y a quand même, et c'est pour ça que j'en viens à la question que vous posez au début, c'est pas tellement les pays d'Europe centrale et orientale qui vont ou ne vont pas imposer leur vision, leur modèle aux autres, c'est que nous sommes tous, chacun avec notre histoire et nos problèmes, traversés d'une manière différente par ce grand problème identitaire qui est lié au flux migratoires et à des flux migratoires très divers, intra-européens, extra-européens en provenance du Moyen-Orient et demain sans doute de l'Afrique. Et pour répondre directement à la question que vous posiez à l'instant, les seuls pays qui s'en tirent bien du point de vue démographique dans la région, c'est ce que j'appelle les petits états du cœur des Balkans, Albanie, Bosnie, Kosovo, Macédoine du Nord, et Monténégro. Ça, c'est des pays qui,
forcément, ils n'ont pas les visas pour
diverses
partir.
Raisons. Oui, mais c'est oui. Alors, certes, mais ils ont aussi un taux de natalité important, notamment pour les premiers. Donc, c'est pas, il y a un vrai problème général qui est unique au monde. 10 pays sur 11 franchement, ils sont en Europe centrale et orientale, et il y a quand même quelques petites exceptions.
Jacques Rupnik, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que il s'agit autant, et même peut-être davantage, d'une opposition entre les peuples et les élites qu'une opposition entre l'Est et l'Ouest de l'Europe? Parce que, je le disais tout à l'heure, quand on voit les sondages, la question est en train de s'emballer absolument partout en Europe, et les sondages sont absolument incroyables. Une majorité d'Européens aujourd'hui, quand on voit, enfin, les sondages sont ce qu'ils sont, mais semblent être finalement assez d'accord avec les positions d'Europe de l'Est et l'Italie. Regardez l'Italie, la popularité de ce gouvernement s'est encore se gonfle en ce moment. Alors, c'est les élites contre les peuples. Enfin, une incompréhension.
Je crois qu'il y a d'abord eu cette cassure au moment de la crise migratoire, la cassure politique Est-Ouest, c'est-à-dire le groupe de Visegrad qui dit « nous ne participons pas à la répartition des migrants, etc. » Et ça, c'était politiquement, c'était nouveau, parce que, bien sûr, c'est la question de la solidarité politique. Il y a un problème commun, et eux, disons, décident de ne pas participer à la solution commune. Évidemment, ils répondent, mais c'est Mme Merkel qui a pris une décision unilatérale en permettant l'arrivée, en passant outre, disons, Schengen, et nous sommes les vrais défenseurs, en quelque sorte, des normes européennes. Schengen a été bafoué, de même que les accords de Dublin sur le droit d'asile. Donc, il y a là un différent politique. Mais sur le fond, c'est vrai que cette lecture Est-Ouest n'est pas suffisante, puisque nous voyons qu'il y a maintenant l'Autriche, qui a un gouvernement, disons, droite et extrême droite, qui s'est constitué essentiellement grâce au même phénomène, disons, la question migratoire comme catalyseur d'un certain nombre de processus politiques qui étaient déjà en cours. Nous avons vu l'Italie, nous voyons la Bavière maintenant. Et donc il y a effectivement, j'allais dire, un axe, comment l'appeler, national-populiste pour aller vite, mais je ne dis pas que ce soit une description adéquate, mais qui en gros fait sortir, ce n'est plus simplement les pays post-communistes. Ce n'est pas un problème du post-communisme. C'est un pays qui traverse toutes les sociétés européennes à des degrés divers. Faut se souvenir des élections françaises, c'est pas si loin que ça quand même. Et il y a donc maintenant une recomposition politique dans plusieurs pays autour de cette question. En gros, la question migratoire a dynamité le champ politique européen. Et ça, c'est quelque chose qui sans doute donne une certaine satisfaction à Viktor Orban, qui peut dire « je vous l'avais dit, j'ai été précurseur, vous m'avez pointé du doigt ». Comme quelqu'un qui, avec sa clôture, n'est-ce pas, allait contre les valeurs européennes. Bon, j'étais en avance de quelques longueurs.
Les palissades qu'il avait construites en métal en 2015.
En 2015, protéger donc, sa frontière. Il a fait. Et donc, il y a bien sûr maintenant chez lui cette satisfaction-là que ce qui était considéré comme une aberration devient quelque chose de plus respectable. Et donc, voilà, il y a maintenant, au plan européen, je crois, un vrai débat. Quelles seront les réponses à apporter? Soit on trouve une réponse européenne, c'est-à-dire sur la question de la sécurité en Méditerranée, sur la question des frontières. Et si il n'y a plus de Schengen et plus de Dublin, redéfinition de Schengen, redéfinition de Dublin. C'est ça qui a manqué, en fait. Une chose, c'est que Mme Merkel peut, dans des circonstances exceptionnelles, dire « Schengen ne tient plus, les Grecs sont incapables d'appliquer Schengen » ou les accords de Dublin, c'est-à-dire qui obligent les migrants à s'inscrire dans leur demande d'asile dans le pays dans lequel ils viennent d'arriver. Si ce n'est plus tenable, ben, à ce moment-là, on a l'ardente obligation de redéfinir et Schengen et Dublin. Si vous mettez 3 ans à le faire, ben, ne vous étonnez pas de voir que les propos de M. Orban, mais aussi des autres pays d'Europe centrale, qu'on a peut-être moins entendus, mais ils étaient à peu près
sur la même ligne,
ben, maintenant ils ont un écho en Autriche. Bon, Autriche-Hongrie, oui, il y a des connivences. Et puis la Bavière, je crois que c'est un axe d'ailleurs politique qui s'était constitué avant, bien avant. Il s'était constitué dès le gouvernement Schüsselheider en Autriche en janvier 2000. À ce moment-là, vous avez l'ostracisme du côté européen et le chancelier autrichien, M. Schüssel, fait sa première conférence de presse aux côtés de qui ? De Viktor Orban, qui n'était pas dans l'Union européenne, loin de là, mais qui était le premier ministre hongrois et qui avait compris que les réprobations qui venaient de Bruxelles et de Paris en particulier pourraient un jour s'adresser à lui. Et donc là, s'est constituée cette alliance avec la Bavière aussi, parce que la CSU bavaroise, invitée au congrès de Viktor Orban au début des années 2000, sur la question des décrets Beneš. Hein, on parlait de transfert de population déplacée à la fin de la guerre. Bon, il y avait 3 millions d'Allemands des Sudètes qui ont quitté la Tchécoslovaquie. La CSU et la CDU, ensuite, a rejoint ce propos, a demandé l'abrogation des décrets Beneš de 1945, Beneš président de la Tchécoslovaquie en 1945, abrogation de ces décrets comme condition d'adhésion à l'Union européenne. Et là, vous avez l'axe qui s'est constitué. Munich, Vienne, Budapest. Et ça a servi de protection formidable à Viktor Orban pendant toutes les années où, quand il est revenu au pouvoir en 2010, il a retrouvé cette protection au sein du PPE et qui plus est aujourd'hui, politiquement, à travers la question migratoire, on retrouve la même constellation.
Marc Semo, ce souffle qui vient d'Europe de l'Est, vous le voyez gagner tout le continent ?
Absolument. Alors, à propos de Viktor Orban, ce qui est fascinant, c'est que, comme vous dites très bien, Jacques Ropnik, aujourd'hui, Viktor Orban se pose un peu en CSU, c'est-à-dire le Parti conservateur bavarois, du Parti populaire européen. Et il revendique haut et fort l'héritage, par exemple, d'Helmut Kohl. Dans son discours pour le premier anniversaire de la mort d'Helmut Kohl, il dit, voilà, il faut en finir avec la droite libérale qui a montré son échec et tout. Il faut une droite chrétienne, hein, le retour à la démocratie chrétienne qui protège, etc. Donc, aujourd'hui, il est de marginal, un peu honteux. On le gardait au sein du PPE parce qu'il avait effectivement ses protecteurs dont la CSU. Enfin, il était comme assez embarrassant. Bon, disons, sa voix commence à porter. Ensuite, au-delà des questions migratoires, ce n'est pas la seule question sur laquelle le vent d'Est a des effets sur l'Europe. Alors ça n'a pas grand-chose à voir avec le sujet, mais on regarde par exemple la question de la dislocation des États. Hein, on oublie qu'en 2004, plus de la moitié des pays qui adhèrent étaient des pays qui n'étaient pas des États avant 89. Et aujourd'hui, quand on voit la crise en Catalogne, la question de l'Écosse, etc., on voit que aussi de ce point de vue-là, l'Europe de l'Est a un effet, disons, d'entraînement et sur le reste de l'Europe. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est sur la question migratoire. Mais effectivement, où ce discours de réinventer la droite devient de plus en plus porteur. Et là-dessus, ils sont en passe de devenir peut-être leader.
Bruno Tertrais.
Oui, encore une fois, l'expression « vent d'Est », elle a sa légitimité. Mais attention, les phénomènes que nous décrivons et que nous analysons cet après-midi, ce sont des phénomènes qui vont bien au-delà de la question migratoire. Je suis pas davantage séduit par votre thèse, Isabelle Lasserre, du décalage entre les élites et les populations. Lorsque l'on voit...
C'est une question que je pose.
Oui, donc avec cette hypothèse, en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas seulement les mouvements nationaux populistes qui arrivent au pouvoir en Europe centrale et orientale. On a Syriza, on a Podemos, on a Trump, on a le mouvement 5 étoiles et on a Macron qui est le seul à avoir justement réussi à capter ce mécontentement en le maintenant dans le cadre de la démocratie libérale traditionnelle. Donc, ça va au-delà des migrants, ça va au-delà du vent d'Est, même si la question migratoire est le Christ et le catalyseur, le cristallisateur, le symbole, le réceptacle de toutes ces histoires dont on entend parler à l'instant. Ce n'est pas parce que Monsieur Orban est là que le mouvement 5 étoiles est en place en Italie. Vous voyez, je crois qu'il faut l'idée du vent d'Est, elle a sa réalité mais elle ne suffit pas à rendre compte du phénomène dont nous parlons actuellement. La mauvaise gestion par l'État italien, de la criminalité des gangs nigérians qui occupent des villages entiers, qui ont quasiment condamné des villages entiers du sud de l'Italie, ce n'est pas Monsieur Orban qui en est responsable. Vous voyez, c'est quand même, il y a des dynamiques locales très fortes, des dynamiques locales propres. D'ailleurs, en Italie, comme en France et comme ailleurs, on voit qu'un des meilleurs prédicteurs du succès des forces dites populistes ou d'extrême droite, c'est tout autant la disparition des services publics ou le sentiment d'être abandonné par l'État central, plutôt que l'immigration elle-même, même si ça va souvent ensemble, qui est le prédicteur le plus important, le plus significatif du vote de l'extrême droite. Et puis un dernier mot sur Orban. Il n'y a pas seulement que la question migratoire, il y a la question de la natalité. Ce sont des pays. J'utilisais cette expression double peine démographique, migration versus effondrement de la population. Orban a dit très clairement, dans un des discours fondateurs qu'il a fait pour son nouveau mandat, que la grande priorité, alors il en a sûrement d'autres, enfin la grande priorité pour lui, ça sera que les Hongroises fassent des enfants, ça sera la natalité. Hein. Donc derrière ce renouveau nationaliste, on voit aussi bien sûr des choses très, très classiques, et on a peur de disparaître, donc il faut que nous-mêmes, nous Hongrois, dit-il, on fasse beaucoup plus d'enfants.
Jacques Rupnik, juste une petite question, après je vous poserai une question à la fin, mais comme elle est hors sujet, je la poserai à la fin. Jacques Rupnik, on l'a un tout petit peu évoqué, mais quel est le rôle de la religion chrétienne là-dedans ? Et est-ce que ça aussi, ça, c'est quelque chose qui se diffuse à l'Ouest ?
Religion, c'est pas la pratique religieuse, c'est pas l'intensité.
C'est l'identité.
Oui, c'est religion comme marqueur d'identité. Religion comme la pratique religieuse en Hongrie, ça a beaucoup baissé. Viktor Orban lui-même. Une famille protestante convertie au catholicisme pour des raisons politiques, parce que ça cadrait bien avec le profil politique qu'il souhaitait adopter. Prenez la République tchèque, le pays le plus sécularisé d'Europe. C'est là où la pratique religieuse est la plus faible. Or, la campagne présidentielle du mois de janvier, entre les deux tours, il y avait deux candidats. Un, le président sortant, Miloš Zeman. En face de lui, Monsieur Drahoš, un académicien modéré, pro-européen. Et le slogan de Miloš Zeman, les panneaux qu'il a fait afficher dans les rues, c'est « Arrêtez les migrants, arrêtez Drahoš ». Donc, vous voyez, et ça a marché. Il n'y a pas de migrants en République tchèque. Monsieur Drahoš n'a pas trouvé mieux à répondre qu'à dire « Je suis d'accord qu'avec la première proposition de Monsieur Zeman ». Donc, il avait perdu avant même d'avoir engagé le débat. Donc, c'est pour dire, ça n'a pas grand-chose à voir avec la religion, ça a beaucoup à voir avec l'identité. Alors, c'est vrai que le discours sur l'Europe centrale comme rempart de l'Europe chrétienne, ça, c'est quelque chose d'ancien. Et les Hongrois ont vécu comme ça, face à l'Empire ottoman. Hein, pour les Hongrois, la bataille de Mohács, 1524, ça c'est la date historique, hein. Les Français connaissent 1515, les Hongrois connaissent la date de la bataille de Mohács. Pour les Polonais, bien sûr, le siège de Vienne, 1683, le prince Sobieski qui arrête les Turcs. Donc, bien sûr, on peut jouer sur cette idée du rempart de l'Europe chrétienne face aux Ottomans hier, face à une autre population d'origine musulmane venue via les Balkans, via la route ottomane.
En 30 secondes, Bruno Tertrais, vous allez me démonter un mythe qui est celui du... on dit toujours que l'aide au développement est la seule solution pour résoudre en fait la question de l'immigration, etc. Dans votre étude, vous prouvez le contraire, mais 20 secondes.
Oui, alors d'abord, je ne suis pas le seul à le dire, ce n'est pas une thèse personnelle, mais c'est quelque chose que connaissent très bien les démographes et les économistes qui travaillent sur le sujet. Il y a une courbe en U inversée, une relation inverse entre le développement mesuré sous forme de revenus moyens par habitant et la propension d'une population à l'immigration. Quand on est très pauvre, on ne migre pas. Quand on commence à s'enrichir, on commence à migrer. Jusqu'au moment où le pays s'enrichit, se développe, et là, on commence à moins migrer. L'Afrique est en train d'entrer justement dans cette première phase, et c'est pour ça qu'on a raison de dire que la migration vers l'Europe est sans doute quelque chose de structurel et durable.
Merci Bruno Tertrais. C'est la fin de ce premier magazine de l'été. Un grand merci à nos invités Michel Duclos, Bruno Tertrais, Marc Semo et Jacques Rupnik. Cette émission d'Isabelle Lasserre a été préparée avec la collaboration d'Amélie Perrault et l'aide de Clara Garnier-Amouroux et de Christine Tomaso. Attachée de production, Marianne Chassor. La réalisation était signée Clémence Gross et à la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson. Vous pouvez réécouter l'émission ou la podcaster en vous rendant sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi et dimanche prochain à la même heure. Bon dimanche et bonne semaine.